Kiosque Magazine.
Bonjour, nous sommes le 29 juillet et il va faire 40 degrés aujourd'hui, paraît-il. Peut-être un petit orage en fin de journée.
Donc, alors on est bien au studio.
Voilà, mais là c'est l'été, ça y est. Vous êtes en compagnie de Christine Boucard.
Bonjour Christine. Bonjour Dominique. Bonjour.
Louise Mercier.
Bonjour Dominique. Louise.
Et on va essayer d'animer l'émission en vous parlant de choses très intéressantes. Alors Christine, tu vas nous parler de quoi ?
Alors ce matin, j'ai choisi de vous faire partager une rencontre avec la comédienne, comique et écrivaine Pauline Martin. L'entrevue dévoile en fait le portrait d'une femme qui est inspirante et sensible aussi à de grandes causes, et notamment celle des malvoyants, puisqu'elle est impliquée dans la fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et ensuite, de façon plus intime, je vous parlerai de comment dompter son hamster intérieur, autrement dit, comment faire de l'air à ses pensées positives.
Ah, intéressant. Et toi, Louise ?
Moi, je vais parler de gâterie. En premier, je vais parler de miel, pourquoi on le préfère. Et en deuxième, la collection Halle Berry. La lingerie arrive au Québec bientôt. Alors, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, en deuxième partie, je voulais parler d'histoire d'amitié.
Bon, très bien. Et moi, je vais vous parler d'Aramba, qui est un village éthiopien très inspirant, des rêves et de la réalité, et le pouvoir du pas encore.
Alors Christine au micro, c'est une rencontre donc avec Pauline Martin par Paul Toutan dans le magazine Le Bel Âge de juillet-août 2015. Pauline Martin joue à la Saltimbanque depuis 42 ans. Tout le Québec la connaît, tout le Québec l'aime, parce qu'ici, comme le disait Yvon Deschamps, le public admire les grands comédiens, mais il aime les comiques. Et Dieu sait si Pauline Martin nous a fait rire pendant toutes ces années. À l'épicerie, certains l'abordent encore en l'appelant Madame Mongrain. Il faut dire que ces imitations de l'animateur Jean-Luc Mongrain font partie de l'anthologie du rire au Québec. Et si derrière la comique se cachait une autre Pauline Martin ? Une Pauline cultivant un jardin secret et qui se prépare doucement à délaisser les feux de la rampe pour goûter sereinement aux joies de l'intime de l'écriture. Voici donc un petit aperçu de sa folie furieuse, scénique. Pauline Martin ne manque pas de travail. Elle a terminé en mai une tournée du Québec avec la comédie Les Chroniques de Saint-Léonard, en compagnie de ses camarades de chez Ducep. Cet été, elle fera les beaux jours de la Maison des Arts de Drummondville avec la folle production de Boeing Boeing, un vaudeville qui est mis en scène par André Robitaille. Et Boeing Boeing raconte les déboires d'un séducteur qui court trop de lièvres à la fois. C'est la pièce française la plus jouée dans le monde, selon le livre Guinness des records. Ensuite, on verra aussi Pauline Martin cet automne dans quelques épisodes du téléroman Mémoire vive à Radio-Canada. Mais la comédienne ne se doute que, étant donné ses 63 ans, les rôles intéressants vont peut-être se faire moins nombreux. Ainsi, elle nous dit « Je suis plus chanceuse que bien des amis de mon âge », me confie-t-elle. « Je ne manque pas d'ouvrages, pourtant les rôles de femmes mûres sont plutôt rares. On me confie encore des personnages énergiques, pas reposants, qui se démènent trois fois plus que les autres. À la longue, mon corps se fatigue, même si j'adore ça. » Tout au long de sa carrière, Pauline Martin a eu l'intuition géniale de ne pas se cantonner dans une seule dimension de carrière. Elle a développé ses talents de communicatrice, ce qui lui a permis de traverser des moments difficiles. Ainsi, elle nous dit « Mon premier choix de métier était le journalisme. À 16 ans, j'animais une chronique à Chicoutimi pour la radio de Radio-Canada, SRC, avec Joël Lemigo. En 2002, Pauline est devenue Miss Météo à la radio de la SRC, une aventure matinale qui a duré 5 ans. En fait, nous dit-elle, je soutenais l'animateur avec des chroniques impromptues. Ce fut une expérience formidable qui m'a été offerte à un moment où j'étais épuisée par mon métier de comédienne. » Plus récemment, Pauline a été l'animatrice d'un documentaire en trois parties portant sur la réalité de la retraite. Lucidité 55, diffusée à RDI, la trilogie se voulait une réponse au fameux slogan Liberté 55 de la compagnie London Life. Le documentaire brise le tabou de la pauvreté qu'engendre une retraite mal planifiée. Il aborde aussi le thème de la santé qui se détériore encore plus vite que les châteaux en Espagne. Je suis à l'aise dans ce genre de communication, ajoute Pauline. Je peux faire autre chose que de la comédie, et ça se voit. Pendant toutes ces années où Pauline faisait la folle sur scène et au petit écran, elle nourrissait l'écrivaine en elle, une facette inconnue de tous, sauf de ses proches. À Samedi de rire, au Bye Bye, elle nous faisait pleurer de rire avec ses personnages et ses imitations. Mais peu de gens savaient qu'elle écrivait des textes comiques pour ses amis comédiens. Lorsque j'écris, dit-elle, je décroche complètement du reste de l'existence. Idéalement, Pauline Martin aimerait faire de la scène jusqu'à 70 ans, puis délaisser la performance scénique pour explorer son jardin secret. Elle se montre très discrète sur sa production littéraire. « Je suis très poreuse, explique-t-elle, et si je parle publiquement de mes écrits, je risque d'être influencée par les opinions et les commentaires des gens. Or, je ne veux pas que les énergies des autres modifient la gestation de ce qui monte en moi. » L'auteur nous dit « J'apprendrai aussi que Pauline Martin a le projet de faire revivre son fameux personnage de Rose-Aimée Dupuis, cette vieille dame à la voix chevrotante qui faisait hurler le public de samedi PM et de samedi de rire. » J'adore Rose-Aimée, nous dit Pauline Martin, qui est un peu ma mère en fait, mais avec un peu beaucoup d'exagération. Elle n'a aucun filtre, aucune autocensure, et elle peut dire des pires horreurs sans choquer. Je peux m'en servir pour passer les messages les plus terribles. Le public trouve ça drôle et libérateur. L'auteur nous dit qu'il a cru comprendre que Rose-Aimée, pourrait revenir dans une émission de télé. Encore faudra-t-il que les diffuseurs acceptent de montrer un personnage âgé à la télévision. Vous avez remarqué que les gens du bel âge ne sont pas très présents sur les ondes québécoises, même si nous formons une majorité de téléspectateurs. À quand une programmation à notre image? Pauline constate par ailleurs que le respect envers les gens d'expérience s'est perdu au Québec. On se débarrasse de ceux qui savent travailler, comme les infirmières, et ensuite, on se plaint que ça va tout croche, explique-t-elle. Il faudrait instaurer une sorte de mentorat qui permettrait aux gens plus vieux d'initier les jeunes aux subtilités de leur métier. Tout le monde travaillerait quelques jours par semaine au lieu de chômer, et on n'y perdrait pas en qualité. Il faut que les générations s'entraident, poursuit-elle. L'entraide sociale est très importante pour Pauline, qui est devenue l'an dernier porte-parole de la fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, auquel elle donnait de son temps depuis un moment. « Ma mère, morte à 100 ans, était aveugle à la fin de sa vie, dit-elle, et j'ai compris avec elle l'importance de venir en aide aux malvoyants. Ainsi, sa cause, je fais une petite parenthèse, c'est une grande parenthèse même, la fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille offre des services exceptionnels aux personnes ayant des déficiences visuelles. L'organisme paragouvernemental est reconnu dans le monde entier pour son excellence. L'Institut emploie 230 personnes, dont 20% sont non-voyants ou présentent une déficience visuelle. On offre aux gens de tous les âges des services comme l'aménagement d'une maison ou d'un lieu de travail, le suivi des ordonnances pour les lunettes ou encore la suite d'une intervention chirurgicale. Des psychologues peuvent aussi aider les patients à accepter leur perte de vision. Des bénévoles peuvent aider les aveugles à utiliser les transports en commun. L'Institut possède aussi une boutique où l'on trouve tous les accessoires utiles aux non-voyants dans leurs activités domestiques ou récréatives. Alors voici, donc on peut faire, en fait, vous pouvez contacter fondationenvue.org sur leur site. Ils sont basés à Longueuil, Saint-Charles. Et c'est ainsi que je terminerai cet article et je vous souhaite une bonne poursuite d'émission.
Alors, on va parler de gâterie maintenant. Pourquoi on préfère le miel? C'est un article qui est paru dans la Presse Plus du 23 juillet dernier par Catherine Lefebvre, une collaboration spéciale. Sur les tartines, dans les petits pots d'onguent et même sur les toits de la métropole, le miel à la côte. Qu'est-ce qui explique l'enthousiasme qu'il suscite au-delà de son goût délicieux? Les Égyptiens sont les premiers à avoir mentionné bon nombre de denrées dans l'histoire culinaire. Pour ce qui est du miel, ils l'affectionnaient particulièrement, comme c'est encore le cas aujourd'hui. La Basse-Égypte portait même le nom de terre d'abeilles autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le miel faisait autant partie des rites religieux que des traitements médicaux et il était un objet de valeur dans le commerce. Mielé, vitaminé. Moins transformé que le sucre blanc, le miel est souvent perçu comme étant nettement moins nocif pour la santé. Certes, il contient plus de nutriments que le sucre blanc, mais il faudra en manger à la cuillère pour que cela devienne intéressant d'un point de vue nutritionnel. Ça ne sera peut-être pas intéressant pour les cuisses.
Faut choisir.
Oui, c'est ça. Et manger du sucre à la tonne n'a rien de bon pour la santé, peu importe le type. Si le miel a un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre blanc, il en faut une moins grande quantité pour produire le même goût sucré. Plus de la moitié de ces sucres sont sous forme de fructose. Contrairement au glucose, il se rend directement au foie. En excès, il se transforme donc plus rapidement en triglycéride, forme sous laquelle le gras est emmagasiné dans le corps. Un surplus d'acides gras libres et de triglycérides en circulation serait en partie responsable de la résistance à l'insuline. Ceci dit, c'est surtout le glucose-fructose, high fructose corn syrup, qui augmente ce risque, vu sa forte concentration en fructose et son omniprésence dans les aliments transformés. Quoi qu'il en soit, ajoutons le miel à petite dose, surtout pour son goût et parce qu'il peut être produit ici. Question de pasteurisation. La pasteurisation est utilisée pour éliminer la présence de bactéries potentiellement nocives dans certains aliments. Dans le cas du miel, c'est aussi pour éviter qu'il ne cristallise. Il est à noter qu'un miel non pasteurisé conserve davantage ses arômes particuliers que lorsqu'il a été chauffé. Bien que les cas soient très rares, l'aliment à montrer du doigt dans les cas de botulisme infantile est le miel. Mais inutile de se tourner vers les miels pasteurisés puisqu'ils n'atteignent pas des températures suffisamment élevées pour détruire les spores de Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme. La recommandation est d'éviter de donner du miel aux enfants de moins de 1 an. De mielleux remèdes. Nous entendons souvent parler des mille et une vertus du miel. Il aiderait entre autres à favoriser la cicatrisation de la peau grâce à son pouvoir antiseptique. Or, à la lumière d'une revue de littérature parue en 2015 dans le Journal of Microbiology, Immunology and Infection, les études in vitro sur les bienfaits du miel dans le traitement topique de certaines infections cutanées présentent des résultats prometteurs. Les chercheurs précisent toutefois que de plus amples études in vivo sont nécessaires pour confirmer l'action antibactérienne du miel et la méthode d'utilisation idéale. Se tartiner la plaie de miel entre deux rôtis au petit-déjeuner n'est donc pas recommandé. Puis, nous connaissons bien le remède de grand-mère pour apaiser la toux, soit de mélanger un peu de miel dans une tasse d'eau chaude. Dans une revue de littérature scientifique publiée en 2014 dans le Cochrane Database System Review, les chercheurs concluent qu'il n'y a pas d'évidence scientifique significative confirmant l'usage du miel dans les cas de toux, mais ils ajoutent tout de même qu'il ne ferait pas de tort. En d'autres mots, si ça réconforte, pas de problème. À la rescousse des abeilles, ces dernières années, la population des insectes pollinisateurs, comme les abeilles domestiques, dites mellifères, est en chute libre. Parmi les nombreux facteurs en cause, notons les insecticides comme les néonicotinoïdes et les monocultures. Pour pallier ce désastreux déclin, voilà que nous voyons de plus en plus de ruches sur les toits en ville. À ce jour, il y en aurait 161 répertoriées selon Agriculture Montréal. L'organisme Alvéole Montréal en compte toutefois près de 400. La problématique n'est pas à Montréal, mais bien dans le milieu agricole, précise Marc Serdi, chargé de projet Biodiversité urbaine à Ville-en-Vert et administrateur et co-porte-parole de l'organisme Miel Montréal. Quand on entend parler du déclin des abeilles, il s'agit surtout des apicultures de masse utilisées dans les vergers ou pour la production de miel, par exemple. Il y a deux solutions plus durables que l'apiculture urbaine. Soutenir les entreprises agricoles qui font de l'agriculture à petite échelle, favorisant la culture diversifiée et manger bio. En ville ou à la campagne, il peut aussi être pertinent de semer davantage de plantes mellifères pour charmer les pollinisateurs au-delà de l'abeille domestique. Alvéole Montréal a d'ailleurs créé une fiche illustrant quelques plantes à prioriser.
Le vent s'engouffre dans ma valise et sur ma roue. Il y a des trous. J'ai vu tant de rues, j'ai vu tant d'églises, mais les plus belles étaient chez nous. Mon village est loin, à l'autre bout du monde, et ma maison n'est plus qu'une chanson. Comme les neiges, mes rêves fondent. Buvons mes frères, les vagabonds. Des Caraïbes aux Philippines, j'ai traîné ma carcasse un peu partout. Mais les chemins qui mènent à nos côtés. collines avaient des pierres douces à mes pieds nus. Mes camarades à l'autre bout du monde, c'est bien justice, m'ont oublié. Je leur adresse une colombe. Buvons mes frères à leur santé. Le vent s'engouffre dans ma valise. Pourtant la chance est souvent venue. Elle est bien brave, quoi qu'on en dise. Mais il ne faut pas trop dormir dessus. La pauvreté manque parfois de charme, mais l'herbe est douce aux malheureux. Pas de discours et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.
C'était Joe Dassin avec Mon village du bout du monde. Moi, je vais vous parler d'un autre village qui se trouve en Éthiopie, qui s'appelle Aramba. En Afrique de l'Est, des villageois éthiopiens bousculent les règles en abandonnant droits coutumiers et patriarcat. Dans cette communauté, les femmes sont les égales des hommes. C'est un texte par Daphné Breitenbach et Ismaël Merengeti dans le Châtelaine d'août 2015. Livres de biologie à la main, des jeunes sortent de l'école. Ils n'ont que quelques dizaines de mètres à parcourir pour rentrer chez eux, après avoir esquivé ânes, chèvres et bœufs. Une scène typique de l'Éthiopie ? Au premier abord seulement, car ici, le groupe d'étudiants compte des gars et des filles. Peu fréquent dans un état où moins de la moitié des fillettes accèdent à l'école primaire. Mais à Aramba, littéralement le haut de la colline, au cœur des montagnes verdoyantes, de la région d'Amara, à 500 km au nord de la capitale Addis Abeba, on n'est pas tout à fait en Éthiopie. Qu'est-ce donc que ce village pas comme les autres ? C'est une communauté de 414 âmes, fondée de toutes pièces dans les années 1970 par un visionnaire du nom de Zumra Nuru. Chapeau vert, fluo toujours vissé sur le crâne, l'homme approche les 70 ans. Aramba, c'est son bébé. La solidarité est l'un de nos principes les plus importants. C'est pour cela que nous travaillons en coopérative, que ce soit pour le tissage ou l'agriculture. Tout le monde se partage à égalité les bénéfices à la fin de l'année, dit le paysan philosophe, assis au pied du grand arbre qui domine la place du village. La communauté ne reconnaît aucun jour férié et l'organisation de la semaine est précise. 5 jours sont dévolus au travail coopératif, une journée à l'aide aux aînés qui disposent d'une petite maison de retraite, le 7e jour est libre. Nous avons connu tellement de difficultés pour vivre en liberté que nous travaillons tout le temps pour ne pas perdre ce que nous avons. Au fil du temps, les relations avec les voisins se sont apaisées. Ceux-ci viennent même utiliser le moulin à grains du village. Mais la présence d'un garde armé qui suit en permanence Zumra Nuru traduit encore une certaine méfiance envers le fondateur d'Aramba. Même s'ils nous respectent de plus en plus, les gens de la région n'ont pas envie de voir nos idées s'appliquer chez eux, ajoute-t-il. Beaucoup considèrent que nous ne faisons pas partie de la culture éthiopienne. Les choses bougent dans le pays, mais la route est encore très longue. Chai Guémar est institutrice. À 20 ans, responsable du jardin d'enfants, elle s'occupe d'une trentaine de tout-petits garçons et filles qui prennent place chaque matin sur les bancs en pierre de la classe. Le confort est spartiate, les jeux peu nombreux et les quelques livres destinés à l'apprentissage de la lecture ne sont pas en amharique, langue du pays, mais en français ou en néerlandais, dont de visiteurs étrangers. Mais l'endroit n'en demeure pas moins attrayant. Dans la région, des enfants de 3 ans se retrouvent à la tête d'un troupeau de vaches toute la journée. Ils ne reçoivent aucune éducation formelle. Ici, c'est différent, explique Chai. Devant une armée de bambins au garde à vous à qui l'on enseigne la discipline, l'institutrice en blouse blanche ne hausse pas la voix. Mais sa grande taille et sa carrure impressionnent les enfants qui prennent très au sérieux leur scolarité. Je le répète que l'école constitue ce qu'il y a de plus important pour eux, leur principale chance. Moi, ça a changé ma vie. Ailleurs, dans ce pays de 94 millions d'habitants, les filles de 20 ans ont déjà un époux et des enfants et ne peuvent plus étudier depuis bien longtemps. Chai, elle, n'a même pas de petite amie, une liberté impensable en terre amara. Car même si le code de la famille éthiopienne a fixé l'âge légal du mariage à la majorité, la pratique des unions précoces demeure très courante dans la région. Une fille sur deux serait mariée avant 15 ans, selon des estimations, une coutume dont s'est débarrassée la communauté en désacralisant l'union maritale. Ici, il n'y a ni fête ni dot. Le mariage se résume à la signature d'un document officiel, et ce, à partir de 19 ans pour les filles et de 20 ans pour les garçons, sans que les familles aient voix au chapitre. Trissou Fente s'est mariée à 19 ans avec un garçon de son âge. Aujourd'hui, dans la trentaine, la jeune femme a 3 enfants et n'envisage pas de tomber enceinte de nouveau. Et pour cause, à Amramba, on ne fait pas plus de 3 ou 4 petits, les terres à se partager étant limitées. Trissou prend donc la pilule, comme moins d'un quart seulement des Éthiopiennes. Mais le planning familial est loin d'être la seule avancée du village. Sans tabou, la mère de famille évoque un fléau national. Chez nous, il n'y a pas d'excision. Nous ne pratiquons pas cela sur nos filles parce que, au moment d'accoucher, cela pose énormément de problèmes. Et puis, beaucoup de femmes meurent à cause des mutilations subies pendant leur enfance. Même si depuis 2005, l'excision est condamnable en Éthiopie, l'UNICEF estime que près de 2/3 des 40 millions d'Éthiopiennes en sont encore victimes, l'un des plus forts taux au monde. Les autres Éthiopiens nous prennent souvent pour des fous, mais ce sont leurs coutumes qui sont mauvaises, poursuit Trissou. Tout en s'affairant sur son métier à tisser, car la mère de famille est aussi tisserande, activité d'ordinaire réservée en Afrique aux hommes. La besogne est physique, mais la jeune femme, petite et menue, s'en sort aussi bien que ses voisins dans la grande salle de tissage du village. Il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Si je suis capable de tisser, alors je tisse. À la maison, les tâches ne se répartissent pas selon le sexe, mais en fonction des capacités de chacun. On croise ici et là des villageoises maniant la charrue pour labourer la terre, des hommes en train de donner le bain aux enfants ou de préparer l'injera, c'est une crêpe à base d'une céréale locale. Avec certaines limites toutefois, les enfants n'aiment pas l'injera de mon mari, ils la trouvent moins bonne que la mienne. Je préfère qu'ils se contentent de préparer la sauce, je m'occupe du reste. Il n'y a pas de chef à la maison, sauf dans la cuisine, précise amusée Trissou, dont le mari œuvre sur une machine à coudre dans une petite usine textile d'une ville proche. Faire un travail de femme ne change pas mon sexe, cela change mon ignorance. L'une des devises de la communauté qui prend là tout son sens.
Alors, c'est Louise au micro. On revient aux petites gâteries, la collection de Halle Berry, bientôt au Québec.
Ah! Attention!
Attention, on veut voir des images.
On fait éviter le miel avant, surtout.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un article publié le 24 juillet par Olivia Lévy dans la Presse Plus. Depuis quelques mois, Halle Berry est copropriétaire et directrice de la création de Scandale Paris, une marque de lingerie française fondée en 1932. Elle en est aussi l'égérie. La collection de l'actrice américaine sera offerte au Québec dès le 24 août dans les boutiques La Vie en Rose Entrepôt et sur le site web du détaillant. Halle Berry a découvert Scandale Paris lors de ses nombreux séjours dans la ville Lumière. Sa relation avec la marque est née de son amour pour Paris et de la sophistication intemporelle de la Parisienne. Ce que j'aime, c'est que c'est une lingerie classique, élégante, simple et de qualité qui fait ressortir ma féminité. J'ai repris cette marque pour pouvoir lui donner un nouveau souffle, tout en gardant son style parisien et sa qualité. Je suis enchantée de faire partager ce coup de foudre, écrit Halle Berry, qui a répondu aux questions de la presse par courriel. Pour moi, la Parisienne est une femme élégante, féminine, qui a confiance en elle et qui, me dit-on, renouvelle souvent sa collection de lingerie. On va espérer que les Québécois seront pareils.
Ben oui.
Avec la marque Scandale Paris, l'actrice américaine oscarisée souhaite s'adresser à toutes les femmes, de la plus timide et conservatrice à la plus sexy et épanouie, le tout à des prix très accessibles. Je pense que les modèles, chics et confortables, répondent aux besoins de la femme d'aujourd'hui. On a envie d'être belle. J'aime la lingerie et ça a toujours été important pour moi de choisir et de porter de beaux sous-vêtements. Je me souviens de l'achat de mon premier soutien-gorge en dentelle. Ce n'était pas simplement un soutien-gorge fonctionnel que ma mère m'avait acheté, mais plutôt un très joli soutien-gorge légèrement transparent, très délicat et soigné, dans lequel je me sentais belle et désormais une vraie jeune fille qui aspirait à devenir une femme, confiée à Liberry. Je pense que les femmes ont envie de se sentir belles et sexy en tout temps dans leurs sous-vêtements, tout en étant à l'aise, évidemment. On a aussi envie d'être belle lorsque vient le moment de se déshabiller. Je suis certaine que les femmes sont d'accord avec moi pour dire que ce qu'on porte sous nos vêtements est la première étape vers un sentiment de bien-être, et c'est ce qui nous permet d'être bien dans notre peau.
Petit soin pour les fines herbes, mon truc pour conserver les fines herbes. L'utilisation d'un chiffon épais et absorbant, genre linge à vaisselle ou couche de coton. Une fois ce tissu mouillé, puis essoré, j'y enveloppe par exemple un bouquet de persil. Je glisse le tout dans un sac de plastique que je dépose dans le tiroir du frigo. L'humidité du tissu garde les fines herbes fringantes pendant des jours. Autre point, ne pas oublier d'enlever d'abord l'élastique ou l'attache de plastique qui entoure les tiges. Quant aux fines herbes vendues en pot, comme le basilic, je les laisse sur le comptoir dans une petite assiette où je verse régulièrement de l'eau. La plante s'abreuve par le fond du pot et tient le coup longtemps.
Alors, merci pour ces beaux articles. On se rencontre encore une fois après la pause. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Moi, j'avais une minute, en fait. Mais comme je t'entends pas, je suis un...
Bon retour à Kiosque Magazine sur Canal M. Vous êtes en compagnie de Christine, Dominique et Louise. Alors, je vais vous parler de trois articles que Sylvia Galipeau a écrits sur les amitiés. Alors, le premier porte sur une amitié intergénérationnelle. Plus de 20 ans les séparent, une génération, un monde. Tout le contraire, à les entendre discuter, rigoler, parler d'un livre, d'une série, d'un film, se rappeler tant de beaux souvenirs partagés, on se dit que non, résolument, l'amitié n'a pas d'âge. Tu as vu l'affiche dans le café pour le documentaire sur Amy? On y va? As-tu lu Boucar Diouf? Tu viens à l'anniversaire de Vincent? Elles ont des dizaines d'anecdotes à raconter. Leur première rencontre dans un bar, leur histoire de voyage, les enfants de l'une que l'autre a gardés, à qui elle a même appris à lire et qu'elle continue religieusement de fêter chaque année. L'une est petite, limite frêle et va bientôt avoir 80 ans. C'est Marie Tremblay-Blondin, à qui on en donnerait facilement 20 de moins. L'autre, c'est Michel Laberge, 58 ans, grande, dynamique, énergique, au fou rire facile, franc et surtout communicatif. Nous, on n'a jamais vécu ça comme une amitié intergénérationnelle, même si dans les faits, c'est ça. En fait, on a toujours eu le même âge, Michel Laberge. Il faut dire que Marie a toujours eu l'air jeune, c'est effrayant, ajoute Michel en rigolant. Elles se sont rencontrées dans les années 80. À l'époque, Michel avait un bar sur la rue Saint-Denis, le rose pêche, la couleur à la mode de ce temps-là, se souvient-elle, photo à l'appui. Et moi, j'écumais Montréal avec mon époux, enchaîne Marie. Et à la fin d'une écume, un soir tard, mon mari a proposé d'aller prendre un dernier verre. C'est chez Michel qu'ils ont atterri. Des gens tripants. Ce n'étaient pas des clients ordinaires. Michel se souvient d'un couple tripant qui roulait en Renault 5, avait beaucoup voyagé, connaissait Montréal sur le bout des doigts. Bref, ils s'assoyaient au bar et ça se passait, résume-t-elle. Grâce à eux, Michel a découvert un Montréal que peu de gens connaissaient à l'époque. la petite Italie, le quartier portugais, le vieux Montréal. Le conjoint de Marie connaissait la chanson française sur le bout des doigts, avait le don pour dénicher la meilleure meringue dans une pâtisserie poussiéreuse ou le bar tout croche où aller danser le flamenco. Moi, je suis une fille de la Malbaie. J'ai étudié à Québec, j'ai travaillé dans la restauration toute ma vie et je les trouvais vraiment très intéressants. Et eux, ils me faisaient l'honneur de leur amitié parce que je voulais bien les écouter, résume Michel. Avec les années, Michel a vendu son bar, le mari de Marie est décédé, mais les deux amies ne se sont jamais perdues de vue. Elles se retrouvent pour des 5 à 7 au Petit Medley, un film au cinéma ou un souper à l'Express, parce qu'on trouve que c'est aussi bon qu'avant. Oui, on a encore des projets, encore pour longtemps, j'espère. La vie de la psy. Dans les amitiés intergénérationnelles, des fois, il y a des rencontres particulières, un regard ou une parole qui évoque quelque chose de fort. Et cela va peut-être réveiller quelque chose de notre propre relation à nos parents. Est-ce qu'on a été très proche de notre parent et on revit ici quelque chose avec plaisir? Ou alors est-ce qu'on a manqué de quelque chose dans notre relation et on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas eu? Cela dit, moi, comme psy, ça ne me choque pas. Parce qu'à un moment donné, l'amitié s'est basée sur le partage d'intérêts. L'intergénérationnel ne pose aucun problème. Florence Marcel Deneau, psychologue. Alors, pour le deuxième article, c'est les amis contraires cette fois-ci. Alors, toujours avec Sylvia Galipeau. L'une est brune, urbaine, dynamique et militante. L'autre est blonde, banlieusarde, casanière et de son propre aveu, un peu ma tante. Et malgré le monde qui les sépare et leurs opinions politiques diamétralement opposées, elles sont amies depuis plus de 25 ans. Des amis, des vrais, comme on en a peu dans une vie. Marie-Claude Gagnon travaille dans le milieu communautaire à Montréal. Ève Barrette-Marchand est enseignante et conseillère municipale à La Prairie. « Je suis la Nancy de Saint-Eustache avec les bobos », résume-t-elle en riant. Il faut dire qu'elle a un humour décapant. C'est d'ailleurs ce qui les a d'abord unis, ce même sens de la répartie. Une chouette folie, une belle chimie. Non, leur amitié n'a pas toujours été de tout repos. Il faut dire qu'elles ont deux caractères forts, alors oui, parfois, ça a pété. Ça a explosé même, notamment pendant la crise étudiante. C'est là que leurs allégeances politiques, aux antipodes, ont éclaté au grand jour. On avait des discussions enflammées. Moi, j'étais super impliquée, à fond là-dedans, et ça devenait émotif, se souvient Marie-Claude, qui un jour, devant un statut Facebook de son amie, n'en est tout simplement pas revenue. Coudon, a-t-elle changé tant que ça? Est-ce que c'est la même Ève que j'ai connue? Il faut dire que jusque-là, les deux amies n'avaient pour ainsi dire jamais parlé politique. Ça a créé un froid. Elles ont été 6 mois sans se parler. Et puis un jour, elles ont repris contact. Parce que parfois, l'amitié est encore plus forte que les convictions politiques, même chez les plus engagés. Je me suis dit, voyons, on se connaît depuis que j'ai 16 ans. On ne va pas laisser une amitié comme ça se briser, poursuit Marie-Claude. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Une amitié significative. Marie-Claude et Ève se sont connues à l'adolescence dans un camp de vacances. Elles étaient toutes les deux monitrices, ensemble 24 heures sur 24. Ça tisse des liens solides, quasi indestructibles. Elles ont vécu toutes sortes d'aventures. Premiers apparts, premiers colocs, premiers chums. Les hauts et les bas des jeunes de 20 ans, résume Ève. On a vécu des moments forts ensemble dans nos vies. Ce n'est pas à cause d'une chicane que tu laisses ça. À un moment donné, tu te dis, on est des amis pour d'autres raisons, Marie-Claude. Et ces raisons-là, elle les énumère sans se faire prier. Marie-Claude a toujours aimé le fond de folie d'Ève, une énergie que j'aime chez les gens, et je suis capable de retrouver cette énergie malgré nos vies différentes. De son côté, Ève apprécie aussi beaucoup l'énergie de son amie, sa drive, sa générosité et oui, son engagement. Aujourd'hui, elles ont appris à éviter de parler de politique ou à rire de leurs différences. On a décidé de ne pas laisser ça déteindre sur notre amitié, conclut Ève. Quand on est ensemble, on prend des cafés, on rit, on jase, on a du fun. Quand on est ensemble, on a 17 ans. Alors, qu'est-ce que ça prend pour avoir des bonnes amitiés? La journaliste a même inclus 5 règles d'or de la psychologue Florence Marcel Deneau. Alors, la première, souple, tu resteras. On ne cherche pas à imposer sa façon de voir, résume la psychologue, une règle qui redouble d'importance quand on est végétarien et que notre ami est carnivore, par exemple. La personne recherchée en amitié, c'est la personne flexible. Ce n'est pas pour rien que certains ont énormément d'amis et d'autres pas. 2. Juger, tu éviteras. On ne juge pas non plus les comportements de l'ami. Par exemple, si on est un ex-fumeur et que notre ami est fumeur, on ne juge pas non plus son mode de vie, tout particulièrement si on a un certain âge et que notre ami vient d'une autre époque. On évite, par le fait même, les blagues générationnelles du genre « on le sait bien, vous, vous avez tout eu, cuit dans le bec ». La troisième, toute ambiguïté sexuelle, tu régleras. Quel que soit l'âge, la question de l'ambiguïté sexuelle est le piège numéro un à éviter en amitié, indique la psychologue. S'il y a ambiguïté, on en parle, on aborde la question, suggère-t-elle. Le quatrième conseil, le respect, tu garderas. Notre ami a une vie privée, familiale et professionnelle qu'il faut évidemment respecter. C'est une des grandes qualités de nos amis, soit dit en passant. On ne partage pas leur quotidien. On peut donc passer un bon moment ensemble, profiter de nos intérêts communs, puis se quitter. Techniquement, ça devrait nous permettre d'être plus tolérants, plus permettants, fait valoir la psychologue, parce qu'on n'a pas à les endurer le lendemain matin. Et la cinquième règle d'or, ta relation, tu entretiendras. Comment? C'est la grande question de l'amitié. Comment fait-on pour l'entretenir sans quoi elle risque de s'éteindre, souligne la psychologue. Quelques pistes, on fait des efforts pour se voir, on reste présent, fiable et surtout, on s'intéresse à l'autre. Son cancer, le cancer de son conjoint, son projet de faire l'école à la maison et son dernier marathon.
Christine au micro de nouveau, dompter son hamster intérieur. C'est un article de Jacqueline Simoneau paru dans le magazine Le Bel Âge de juillet-août 2015. On a parfois l'impression que les pensées négatives se bousculent sans arrêt dans notre tête, comme si c'était plus fort que nous. On rumine, on juge, on critique, on angoisse. Certaines personnes disent alors que c'est notre hamster intérieur qui fait des siennes. Ce petit rongeur peut trotter jour et nuit dans notre esprit jusqu'à nous gâcher l'existence. Il faut vite ralentir sa course. Voici quelques pistes. Personne ne me comprend, que vont-ils penser de moi? Pourquoi est-ce toujours à moi que ces choses-là arrivent? Et voilà M. Hamster qui pédale à la vitesse grand V dans sa roulette. Ce petit hamster, le docteur Serge Marquis, spécialiste en santé communautaire et consultant dans le domaine de la santé mentale, le nomme Pensouillard. Car pour l'auteur du livre Pensouillard le hamster, petit traité de décroissance personnelle, notre hamster pensouille beaucoup, mais en réalité, il pense très peu. Penser génère des idées claires et utiles qui permettent de trouver des solutions et de passer à l'action, dit l'auteur. Pensouiller engendre plutôt des critiques, de la culpabilité envers les autres et soi-même. J'appelle d'ailleurs pensouillure ces pensées à propos de tout et de rien qui encombrent notre tête à longueur de journée. Le problème, c'est que pensouillard tourne en rond, il ne conduit jamais nulle part. En monopolisant toute notre attention, il nous empêche de réfléchir vraiment, de profiter du moment présent et d'avancer. Puis il cause une souffrance inutile. Un pensouillard, nous en avons tous un dans la tête. Certains jours, il court particulièrement vite. Certaines nuits, il nous empêche carrément de trouver le sommeil. Quand on est privé de stimulation visuelle et sensorielle, les défenses tombent. Le hamster trotte d'autant plus vite qu'il carbure aux commentaires, aux frustrations, aux fausses perceptions vécues durant la journée, souligne la psychologue José Jacques. Il repasse en boucle, en fait, les événements. Pour le docteur Serge Marquis, ce hamster n'est rien d'autre qu'une métaphore de notre ego qui se sent froissé ou menacé. Si on prenait le temps d'analyser nos pensées, on constaterait que les discours et les scénarios qu'on se fait et qui activent notre hamster sont presque toujours liés à l'ego. Parce que dans la vie, on veut exister aux yeux des autres, on veut être aimé, etc. Mais l'ego n'est qu'une illusion. Il est constitué de toutes nos pelures identitaires, c'est-à-dire tout ce à quoi on s'est identifié au cours de notre vie. Que ce soit un sport, une marque de vêtements, un travail, une manière de vivre, un parti politique. Quand on se sent attaqué dans notre identité, entre guillemets, le cerveau se met immédiatement en état d'alerte. Le spécialiste donne l'exemple de Luc, un grand fan du Canadien. Quand l'équipe gagne, Luc se sent euphorique quand elle perd. Il déprime parce qu'il s'identifie à cette formation sportive. Si quelqu'un émet un commentaire négatif sur le Canadien, Luc est aussitôt sur ses gardes. Sa vie et sa survie ne sont pas en danger, mais son cerveau perçoit ce commentaire comme une menace à l'ego. C'est là que Pansouya se réveille et que les questionnements commencent. Le même phénomène se produit lorsqu'un interlocuteur fronce les sourcils pendant qu'on lui parle. À cet instant précis, notre cerveau interprète sa moue comme une attaque. Notre hamster se met alors en branle. Pourquoi est-il en désaccord? Il n'est pas le seul à avoir de bonnes idées. On se sent soudainement inquiet et mal à l'aise. Chaque fois, c'est notre moi qui entre en action. Il ramène tout à lui, indique le docteur Marquis. Selon le père de Pansouillard, toutes ces fausses identités nous empêchent d'être la personne que nous sommes vraiment. On doit apprendre à faire une distinction entre ce que notre ego nous raconte, à travers notre hamster, et ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire un être capable d'aimer, de créer, de s'émerveiller, de transmettre, d'apprendre, de savourer et d'être présent à ce qui l'entoure. Mais pour que ces éléments puissent s'exprimer, il faut calmer le hamster en soi. Les conséquences de tout cela. Saviez-vous que plus votre hamster trotte, plus votre niveau de stress grimpe? En réponse à ce stress, votre corps libère des hormones dans le sang, dont l'adrénaline et le cortisol, pour faire face à la menace. De la même façon qu'il le faisait pour nos ancêtres lorsqu'ils croisaient un prédateur. Car le cerveau ne fait pas de distinction entre un danger réel, par exemple être au bord d'un précipice, et un danger imaginaire lié à l'ego, angoissé à cause d'un commentaire par exemple. Résultat, votre rythme cardiaque s'accélère, votre tension artérielle augmente, votre taux de cholestérol sanguin s'élève, votre respiration s'active. Mais vivre du stress à répétition n'est pas sans conséquence. À la longue, une sécrétion excessive d'hormones du stress peut miner la santé et le moral. Donc, plus votre hamster tourne en rond, plus vous risquez de vous sentir fatigué, angoissé, voire dépressif. En raison de ces symptômes physiques causés par le stress, certains organes, comme le cœur, ainsi que le système immunitaire, pourraient éventuellement être affectés. Ce n'est pas tout. D'après José Jacques, plus votre hamster courvine dans sa roulette, plus il réactive vos pensées négatives, plus vous consolidez ces pensées dans votre mémoire, plus elles se multiplient et prennent de la place. De là à ce qui s'ensuit des répercussions sur votre humeur et vos relations, il n'y a qu'un pas. Mais l'inverse est aussi vrai, soutient Madame Jacques. Plus on donne de l'espace à des expériences positives, et là ça devient important, plus on active la sécrétion des hormones du bonheur. Donc, au lieu d'alimenter votre hamster, on devrait multiplier des moments heureux, les liens bienfaisants et significatifs, et ce avec notre entourage et les activités valorisantes également. Le petit emmerdeur perdra alors peu à peu de son pouvoir. Comment faire taire son hamster? Impossible évidemment de jasser complètement le hamster de votre tête. En revanche, vous pouvez mettre en pratique des techniques simples pour ralentir sa course et mieux le maîtriser. Et voici ce que je vais vous en dire dans quelques secondes. Développez votre vigilance, par exemple. Pour freiner votre hamster, vous devez prendre conscience du moment précis où il se met en marche, afin de bloquer sa roue et de reprendre rapidement les rênes. Pour y arriver, on observe vos pensées afin de repérer les scénarios et les discours intérieurs improductifs. Négatifs également, ou essentiellement centrés sur l'ego. Soyez attentif, votre hamster vous accompagne partout. Par exemple, vous êtes dans la file d'attente au supermarché, vous êtes presque rendu à la caisse quand la gérante vient y cueillir l'argent accumulé, ou que le client devant vous vous sort sa pile de bons de réduction. À cet instant même, votre hamster pourrait bien se réveiller. Pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive? Enfin, bref, essayez de vous rendre compte chaque fois de son entrée en scène, d'en faire un réflexe, en quelque sorte. Un autre exemple, faites diversion. Dès les premières phases qui se bousculent dans votre tête, dites stop. Branchez immédiatement le fil de vos pensées sur une activité concrète ou sur le moment présent. Car ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'attention ne peut se porter sur deux choses en même temps. Si l'esprit est déjà occupé, il ne peut plus ruminer. Donc, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous ne l'écoutez plus parce que votre hamster tourne en rond dans votre tête, ramenez mélico votre attention sur ce que la personne raconte. Si vous mangez, concentrez-vous sur les saveurs des aliments, etc., etc. Alors, en dernière chose, concentrez-vous sur votre respiration et recadrez vos pensées, libérez votre esprit. Et une fois vos émotions sur papier, vous pourrez donner congé à votre hamster.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temps plus affinants où il ne peut entrer. et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes, alouette. Ah, mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.
Eh bien, c'était Félix Leclerc avec l'alouette en colère. Le pouvoir du pas encore, c'est par Louise Gendron dans le Châtelaine d'août 2015. Très souvent, je songe à aller offrir mes services au patron du café en face du bureau. Du chocolat ou de la cannelle sur votre cappuccino ? Que je demanderai 130 fois dans la journée. Après la fermeture, je rentrerai chez moi, le cœur léger, les pieds en compote, le bonheur. Ce n'est qu'un rêve, comme chantait Céline. J'ai les mains pleines de pouces et personne ne m'embauchera jamais comme barista. Ce fantasme ressurgit chaque fois que je m'assois devant mon ordinateur, le deadline sur la tempe, l'estomac en boule et le stress dans le plafond. J'ai beau gagner ma croûte avec mon clavier depuis plus de 2 décennies, je suis à tous les coups convaincue que cette fois, je n'y parviendrai pas, que ce texte-ci va avoir ma peau, même si jusqu'à présent, j'ai toujours fini par y arriver. Quoique pour cette chronique-ci, je ne garantisse rien. 2 décennies à avoir mal au ventre m'ont appris et qu'on est toujours plus capable qu'on ne le pense. On dirait une évidence de psychopop, sauf quand c'est Carol Dweck, psychologue à l'université Stanford, qu'il l'affirme après des années passées à étudier le sujet. Sa conclusion, la manière d'évaluer ses propres capacités influence les choses qu'on réalise et la vie qu'on mène. Il y a 2 façons de voir ça. Certaines personnes, dit-elle, croient qu'on est avec la bosse des maths ou le pied marin, bonne nageuse ou cuisinière pourrie. Que l'intelligence, la personnalité, les capacités sont des données fixes. C'est ce qu'elle appelle une posture mentale figée. Quand on est bâti comme ça, l'échec ne peut pas signifier qu'on a mal compris la question ou qu'on manque de pratique. Ce n'est pas une évaluation de ce qu'on a fait, mais un jugement sur ce qu'on est. Une ratée, une pas bonne. Une posture mentale figée oblige à se rassurer constamment sur sa propre valeur. Elle condamne au succès, sous peine de chute mortelle de l'estime de soi. Alors, on évite les défis et on recule devant les difficultés. Trop dangereux. Cette mentalité est une entrave vissée à l'imagination et pas la meilleure façon d'apprendre ou d'avancer. Pourtant, on la distille partout. À l'école, qui sanctionne les performances, dans les sports où tout va au meilleur, dans la culture populaire qui glorifie les stars et oublie tous les autres. Il y a moyen de penser autrement. C'est la posture de la constante possibilité de progrès qui apporte la certitude que rien n'est joué d'avance, qu'on peut apprendre, s'améliorer, repousser ses limites. Bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir Einstein ou Beethoven, dit la psychologue. Mais personne ne peut prédire jusqu'où l'effort et la motivation pourraient mener. Selon cette philosophie, pocher un examen ou ne pas décrocher l'emploi convoité ne signifie pas qu'on a échoué, simplement qu'on n'a pas encore réussi. Méchante nuance. Si vous annoncez à un enfant qu'il a raté son examen ou coulé sa première année, vous le démolissez. Alors que lui dire qu'il n'a pas encore réussi, ouvre la porte à l'espoir, à l'effort, à la réussite prochaine. Elle appelle ça le pouvoir du pas encore. Ça change tout. C'est la différence entre être obligé de prouver qu'on est bonne et se donner la possibilité de devenir meilleur encore. Comment on fait ça ? en apprenant l'existence de ces deux postures mentales d'abord, en comprenant qu'elles reflètent une croyance, pas la réalité, puis en écoutant attentivement son monologue intérieur, celui qui juge sans cesse les résultats qu'on atteint, qu'il s'agisse d'une omelette ratée ou d'un client qu'on a convaincu, qu'on a réussi, qu'on est génial et qu'on le mérite bien, ou qu'on s'est planté parce qu'on est stupide. Les deux jugements sont faux. L'intelligence ou le talent ne dispense pas de l'effort. Et l'effort, bien planifié, peut mener à des résultats qu'on n'aurait jamais cru possibles. La preuve, je l'ai faite finalement, cette chronique. Entre réalité et fantasme, c'est par Geneviève Petersen, toujours dans le Châtelain de 2015, au mois d'août 2015. Quand j'étais petite, je rêvais d'être vétérinaire. Après, j'ai voulu devenir astronaute, princesse, chanteuse d'opéra, dompteuse de lion, maîtresse d'école, designer de mode et chirurgienne cardiaque. C'est pas compliqué. Enfant, j'avais un nouveau plan de carrière toutes les deux semaines. Je dois avouer que ça n'a pas beaucoup changé. J'aspire à plein d'affaires tout le temps. Je ne partagerai pas mes rêves du moment avec vous parce que je pense qu'ils sont comme les vœux. Si on les révèle, ils ne se réalisent pas. Par contre, il y a une chose qui m'énerve avec les rêves. La plupart d'entre eux sont irréalisables. Je n'aurais pas pu devenir astronaute ni chirurgienne cardiaque. Je suis poche en sciences. Et impossible pour moi de me réveiller un beau matin avec un diadème sur la tête. Je n'ai pas de sang royal et les princes se font rares et s'avèrent souvent décevants. J'aurais sans doute pu faire maîtresse d'école ou dompteuse de lion, c'est un peu la même affaire. Mais je me suis découragée en cours de route parce que je suis allergique aux chats et que je n'ai pas de patience. Me restait le design de mode et le chant classique, mais mon père n'a jamais voulu que j'étudie là-dedans. Partout, on nous dit qu'il faut avoir des rêves si l'on veut accéder au bonheur, le vrai. Oui, les deux sont étroitement liés, l'un ne va pas sans l'autre, du moins si l'on se fie à tous les livres consacrés au sujet. Je ne sais pas pour vous, mais ce discours exerce une certaine pression sur moi, comme si j'étais obligée de cultiver des rêves, et pas n'importe lesquels, des gros, parce qu'il paraît que les petits, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se contenter de souhaiter finir de rembourser son hypothèque ou courir 10 km en moins d'une heure. Nos désirs ne sont pas nés pour un petit pain. Il faut rêver à plus, aspirer à mieux et réaliser tous ses fantasmes, même les plus fous, au risque d'échouer sa vie. L'échec est un concept un peu moins populaire, mais néanmoins indissociable de nos quêtes. Et de ça, on parle beaucoup moins. Pas un mot sur ce moment de lucidité, celui où l'on se rend compte que le projet que l'on caressait depuis des années ne se réalisera pas, ou pas comme on l'espérait. À force de vivre dans une culture qui tente de nous faire avaler que tout est possible, on finit par le croire. Si vous en doutez, vous n'avez qu'à allumer votre télé et écouter l'une des 112 émissions qui montre un jeune homme autodidacte, devenu milliardaire du jour au lendemain en inventant une application pour iPhone. Vous aurez beau changer de chaîne, pas un mot sur les obèses qui, après avoir perdu 200 livres avec un coach privé et une armée de nutritionnistes, en ont regagné 250 une fois les caméras éteintes. Pas un mot non plus à propos des perdants de la voix. L'échec, on ne veut pas le voir, et c'est compréhensible. Personne n'aime s'avouer que la réalité gagne souvent contre le rêve. Dans la préface de « Danse macabre » de Stephen King, l'auteur John MacDonald y est allé d'une anecdote révélatrice sur notre rapport au rêve. Quand il assistait à des réceptions mondaines, il arrivait que des invités l'abordent en lui confiant que leur rêve aurait été d'écrire des romans. L'écrivain avait toujours la même réponse. Il aurait aimé être un chirurgien du cerveau. Des fois, quand je me surprends à entretenir des fantasmes exagérés, je me dis que réaliser ces rêves, au fond, c'est juste les transformer en réalité. Et la réalité, ce n'est jamais tout à fait un rêve. Thank you.
Alors ici, Louise Mercier pour faire la conclusion au micro. Merci à Mathieu Tessier. Ses choix musicaux sont toujours très, très à point. Merci à Christine Boucard et à Dominique Meillet. Et nous sommes en reprise à 13h et 21h. Pour avoir accès à toutes les émissions, allez à canalm.org. Et pour faire vos commentaires, écrivez à canalm@vuesetvoies.com. À la semaine prochaine.
Et bonne journée.
Bonne journée. Bye bye.